Je suis tombée amoureuse pour la première fois quand j'avais 8 ans. L'homme n'existait pas vraiment, c'était un personnage de télévision, Sonny Crockett, le policier que jouait Don Johnson dans Deux flics à Miami. Ma mère n'approuvait pas ses bêtises, donc j'attendais juste qu'elle tombe dans les vapes après son thé glacé de l'après-midi, et ensuite je m'ouvrais une canette de Dr Pepper et je regardais les rediffusions à satiété. Sonny Crockett était fort, blasé. Le genre de dur à cuire qui avait tout vu, mais qui se décarcassait quand même pour sauver la fille. Je voulais un Sonny Crockett. Je voulais un sauveur. Quand j'ai eu 13 ans, mes seins ont poussé. D'un seul coup, beaucoup de garçons avaient envie de me sauver. Et pendant un moment, j'ai cru que ça pourrait marcher. Je sortais avec n'importe qui, en montrant une légère préférence pour les mauvais garçons plus âgés qui avaient des piercings. Ils voulaient coucher. Je voulais quelqu'un qui m'embarquerait dans sa Mustang et roulerait à 150 tout phare éteint au milieu de la nuit. Je voulais hurler mon nom dans le vent qui me tatouerait le visage et fouetterait mes cheveux. Je voulais me sentir rebelle, me sentir comme n'importe qui, sauf moi. Je me suis fait une réputation de super suceuse et de tarée encore pire que sa mère Folalier. Toutes les petites villes ont une mère comme la mienne, vous savez, et toutes ont une fille comme moi. Je suis tombée enceinte pour la première fois à l'âge de 14 ans. J'en ai parlé à personne. J'ai bu des litres de rhum coca en priant de toutes mes forces pour que Dieu fasse partir le bébé. Quand ça n'a pas marché, j'ai volé de l'argent dans le porte-monnaie de mon père et je me suis rendue dans une clinique où on fait ces choses-là pour vous. Je n'ai pas pleuré. Je considérais mon avortement comme un geste citoyen, une vie que ma mère ne briserait pas. Je vous l'ai dit, toutes les petites villes ont une fille comme moi. Ensuite, j'ai eu 15 ans. Ma mère est morte, mon père et moi étions finalement libres et j'avais si longtemps rêvé de quelqu'un qui me sauverait. Je voulais Sonny Crockett, l'âme blasée encore capable de deviner la vérité du cœur derrière une façade abîmée. Je voulais un homme qui me prendrait dans ses bras, me donnerait un sentiment de sécurité et ne me lâcherait plus jamais. Je n'ai jamais trouvé Sonny Crockett. Au lieu de ça, la veille de mes 18 ans, dans un bar de la ville, j'ai rencontré mon mari. Je me suis assise sur le tabouret de Jason, j'ai sifflé son coca et quand il a protesté, j'ai caressé le contour dur de ses cuisses sous son jean. Il m'a dit de dégager. Et j'ai su dès cet instant que je ne lâcherai plus jamais. Bien sûr, personne ne peut vous sauver. Mais sachant aujourd'hui tout ce que je sais sur Jason, je comprends qu'il ait cru devoir essayer. À 14h02, Didi estimait l'enquête sur les bons rails. Ils avaient une stratégie et la mettaient correctement en œuvre si l'on considérait qu'ils cherchaient une adulte qui ne pouvait pas être encore officiellement portée disparue, mais qu'il fallait retrouver dans les meilleurs délais. À 14h06, elle reçut la première mauvaise nouvelle. La juge Banyan avait rejeté leur demande de saisie de l'ordinateur familial et refusé de déclarer la maison scène de crime. Elle invoquait comme facteur prépondérant de sa décision l'absence de preuves tangibles qu'il se trouvait en présence d'un crime, à quoi il fallait ajouter le fait que trop peu de temps s'était écoulé. Disparaître 10 heures n'était rien pour une adulte. Peut-être Sandra Jones avait-elle échoué chez une amie, peut-être avait-elle été victime d'un quelconque accident et se trouvait-elle dans un hôpital de la région, incapable de décliner son identité. Peut-être était-elle somnambule et errait-elle encore dans les petites rues de la ville dans un état second. Autrement dit, les hypothèses ne manquaient pas. Si néanmoins, poursuivait le juge, Sandra Jones restait introuvable au bout de 24 heures, elle serait prête à reconsidérer sa position. En attendant, elle les autorisait à fouiller la voiture de Jason Jones. 1 sur 3, se résigna Didi. Retrouver l'édredon et la chemise de nuit dans la machine à laver avait compliqué la situation. Un édredon disparu et une lampe cassée avaient paru de mauvais augure, tandis qu'un édredon et une chemise de nuit dans la machine à laver... Didi ne savait toujours pas très bien quoi en déduire. Que le mari avait essayé de supprimer des preuves ou que la femme aimait faire la lessive. Échafauder des hypothèses était risqué. À 14h15, le capitaine Miller vint au rapport. Didi lui annonça les mauvaises nouvelles du côté de la juge Banyan. Miller donna les dernières informations en provenance du collège de Sandra Jones. D'après le principal, elle y enseignait depuis 2 ans. D'abord comme enseignante stagiaire pour la classe 5e, puis comme professeur des 6e depuis septembre. Jusqu'à présent, les enfants paraissaient l'apprécier, de même que les parents et les autres professeurs. Sandra ne fréquentait guère ses collègues, mais avec un enfant en bas âge à la maison et un mari qui travaillait la nuit, c'était prévisible. Le principal avait croisé le mari une fois, il l'avait trouvé assez sympa. Il avait souvent rencontré la fille, Ri, et la trouvait adorable. Il ne voyait absolument pas pourquoi Sandra ne se serait pas présentée pour ses cours, et oui, cela ne lui ressemblait pas de ne pas passer au moins un coup de fil. Il était inquiet et désireux de faire tout ce qui était en son pouvoir pour faire avancer l'enquête. PS, le principal était un cinquantenaire heureux en ménage, qui, à en croire la secrétaire, entretenait déjà une liaison torride avec la professeure d'art dramatique. Tout le monde était au courant, personne ne s'en souciait vraiment, et il n'y avait pas assez de Viagra sur cette terre pour qu'un cinquantenaire jongle entre la rouquine prof de théâtre et une nouvelle conquête de 23 ans. Il était pratiquement certain que les rapports du principal avec Sandra Jones étaient d'ordre strictement professionnel. Miller avait aussi pris les premiers renseignements sur la situation financière des Jones. Il possédait la somme faramineuse de 150 000 dollars d'économie, ainsi que 2 millions mis de côté dans divers fonds communs de placement auprès d'une banque d'affaires. Leur revenu mensuel était modeste, de même que leurs dépenses. Miller avait le sentiment qu'ils avaient payé leur maison comptant et qu'ils faisaient de leur mieux pour vivre de leur salaire. Miller pensait que le solde élevé résultait d'un unique dépôt, effectué à la suite d'un héritage ou d'un règlement d'assurance, par exemple. Des enquêteurs cherchaient en ce moment même l'origine de leur argent. Autres informations, les Jones s'étaient mariés civilement en 2004 dans le Massachusetts. Leur fille, Clarissa, était née 2 mois plus tard. Il n'y avait ni amende non réglée, ni mandat en cours au nom de Sandra ou Jason Jones, aucune trace non plus de violence conjugale ni d'atteinte à l'ordre public. D'après les voisins, les Jones étaient un couple tranquille et pas très sociable. Ils ne faisaient pas la fête, ne recevaient pas. Si vous les croisiez dans la rue, ils vous saluaient en souriant, mais n'étaient pas le genre à s'arrêter pour papoter poliment. Sauf Ri. Tout le monde s'accordait à dire que Clarissa Jones était précoce et bavarde comme une pie. Apparemment, c'était aussi une vraie chauffarde au guidon d'un tricycle. Si vous la voyez arriver, c'était à vous de descendre du trottoir. Les parents la grondent beaucoup ? Demanda Didi. Les parents sont gaga. Et je répète là mot pour mot ce qu'ont dit 3 voisins différents au cours de 3 conversations différentes. Les parents sont gaga de leur fille. Ouais, sauf que les parents sont aussi décrits comme tranquilles et réservés, alors jusqu'à quel point les voisins les connaissent-ils ?
Exact.
Des contrats d'assurance vie ? On cherche encore. 2 millions à la banque, dit Didi songeuse. Plus du liquide, plus une maison dans un beau quartier de Boston. Ça fait quoi, près de 3 millions et demi d'actifs ? On tue pour moins que ça ? J'imagine qu'un divorce classique coûterait près de 2 millions au mari. Ça fait cher pour un premier mariage. À propos, ils se sont mariés en quelle année déjà ? 2004. Donc Sandra Jones avait quoi ? 18 ans. Et elle était déjà enceinte. Plutôt, étant donné que Clarissa est née 2 mois après. Et Jason Jones a dans les 30-31 ans ?
C'est ce que je dirais. Je cherche encore à dénicher son acte de naissance.
Réfléchissons-y 2 secondes. Nous avons une jeune et jolie demoiselle enceinte, un homme plus âgé et riche. On ne sait pas encore qui avait l'argent, ça pouvait être l'un ou l'autre. Je ne sais pas pourquoi, mais je parierais sur lui. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que vous avez raison. Donc Jason se trouve une adolescente enceinte, une adorable petite fille, et 4-5 ans plus tard, il mène une existence tranquille à South Boston, dans une maison plus barricadée que Fort Knox, dans un quartier où personne ne le connaît vraiment. Didi et Miller gardèrent tous deux le silence un instant. Vous savez ce qui m'a le plus frappé quand nous avons visité la maison ? Reprit soudain Didi. C'est cette façon dont tout semblait juste bien. Ni trop sale, ni trop propre, ni trop encombré, ni trop rangé. Tout était parfaitement équilibré. Comme l'a dit le principal, Sandra Jones était assez sociable pour que les gens l'apprécient, mais sans fréquenter ses collègues au point qu'ils puissent réellement la connaître. Jason et Sandra sourient à leurs voisins, mais ne les reçoivent jamais. Ils font un signe de main, mais ne parlent pas. Ils sortent, mais n'invitent jamais personne à entrer. Tout est soigneusement dosé. C'est un numéro d'équilibriste. Sauf que la nature n'est pas équilibrée.
Vous croyez qu'il mène une existence factice ?
Elle haussa les épaules. Je crois que la vraie vie est bordélique et que ses gens ne sont pas assez bordéliques. Miller hésita.
Nous n'avons pas encore pris de renseignements auprès de l'employeur de Jason. Didi fit la grimace. Le Boston Daily, un grand média.
Ouais, je comprends.
Je songe à faire appeler une fille de chez moi. Elle prétendra qu'elle se renseigne sur lui, avant de lui accorder un laissez-passer, quelque chose du genre.
Bizarrement, ça éveillera moins les soupçons si je demande à une femme de passer le coup de fil. Bien vu. Et nous allons contacter la maternelle de la gamine, histoire de voir ce que les enseignants et le personnel ont à dire. Les petites filles se déplacent en troupeau. Elles ont des copines, dorment les unes chez les autres, non ? Il me semble qu'il doit y avoir quelque part des parents qui en savent davantage sur la famille. Ça me va. Et pour finir, je me suis fait faxer une copie de l'acte de mariage. Maintenant que j'ai le nom de jeune fille de Sandra, je vais m'atteler à localiser le père, à trouver plus d'infos du côté de la Géorgie. D'accord. Toujours aucun signe de Sandra, ni d'opération sur sa carte de crédit, j'imagine. Rien. Les commerçants du quartier ne l'ont pas vu. Les hôpitaux de la région et les services de psychiatrie d'urgence n'ont aucune femme non identifiée, la morgue non plus. La carte de crédit a été utilisée pour la dernière fois il y a 2 jours dans une épicerie. Rien sur sa carte de retrait. Ce qu'on a plus proche d'une activité, c'est une demi-douzaine d'appels vers son portable. Un de son mari, à 2h16 du matin. Sans doute le moment où il s'est aperçu que le téléphone de sa femme sonnait juste derrière lui sur le bar de la cuisine. Puis ce matin, 2-3 appels du principal du collège qui voulait savoir où elle était et 3 appels d'élèves. C'est tout. Elle a reçu des appels de ses élèves de 6e ? Passés depuis leur propre mobile, évidemment. Bienvenue dans un monde meilleur où les enfants sont adultes à 12 ans. Qu'est-ce que je suis contente de ne même pas avoir de plantes vertes. J'ai 3 garçons, grommela Miller, 7, 9 et 11 ans. Je prévois de faire des heures sup pendant les 10 ans qui viennent. Elle ne pouvait pas lui jeter la pierre. Bon, vous cherchez les données financières, les téléphones portables et les adultes de 12 ans. Moi, je fouille la voiture et je mets un spécialiste des auditions de mineurs sur les rangs. Vous croyez qu'il va nous laisser parler à sa fille? Nous n'avons plus de quoi le menacer. Je crois que si Sandra Jones n'a pas été retrouvée demain matin comme par enchantement, il n'aura pas le choix. Didi venait de se lever de sa chaise lorsque le téléphone sonna sur son bureau. Elle décrocha. Jason Jones sur la ligne 1, indiqua la standardiste. Didi se ressaisit. Commandant Didi Warren, dit-elle dans le combiné. Je suis prêt à parler, dit Jason. Je vous demande pardon. Ma fille fait la sieste, je peux parler maintenant. Vous voulez dire que vous aimeriez nous rencontrer? Je me ferai un plaisir d'envoyer 2 agents pour venir vous chercher. Le temps qu'ils arrivent, ma fille sera réveillée et je ne serai plus disponible. Si vous voulez me poser des questions, il faut que ce soit maintenant, par téléphone. C'est ce que je peux faire de mieux. Didi en doutait fortement. Ce n'était pas le mieux, c'était le plus commode. Encore une fois, sa femme avait disparu depuis 12 heures et c'était ça qu'il appelait coopérer. Nous avons organisé l'audition de Ree par une spécialiste, dit-elle. Non. Cette femme est une professionnelle chevronnée, spécialisée dans les auditions de mineurs. Elle mènera l'entretien avec tact et le moins de stress possible pour votre fille. Ma fille ne sait rien. Alors l'entretien sera bref. Il ne répondit pas immédiatement. Didi perçut son désarroi pendant cette longue pause. « Est-ce que votre femme vous a quitté ?» lui demanda-t-elle brusquement pour continuer à le bousculer. « Elle a rencontré quelqu'un d'autre? Elle est partie vers la frontière ?» Jamais elle n'aurait laissé Ree. Ce qui veut dire qu'elle aurait pu rencontrer quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, commandant. Je travaille pratiquement tous les soirs. Je ne sais pas vraiment ce que fait ma femme. Vous n'avez pas l'air d'un couple heureux. Ça dépend du point de vue. Vous êtes marié, commandant? Pourquoi? Parce que si vous l'étiez, vous comprendriez qu'un couple traverse différentes phases. Ma femme et moi élevons une petite fille tout en jonglant avec 2 carrières. Ce n'est pas la lune de miel, c'est du travail. Didi grommela, laissa le silence se prolonger à nouveau. Elle trouvait intéressant qu'il parle au présent. Nous élevons une petite fille. Mais n'arrivait pas à savoir si c'était calculé ou non. Il employait le présent, mais pas le nom de sa femme ou de son enfant. Curieux personnage, ce Jason Jones. Avez-vous une maîtresse, monsieur Jones? Parce que nous posons tellement de questions en ce moment que ça va savoir. Je n'ai pas trompé ma femme. Mais elle vous a trompé. Je n'ai aucune preuve. Mais vous le soupçonniez. Commandant, même si je l'avais surprise au lit avec un autre, je ne l'aurais pas tué. Pas ce genre d'homme. Pas ce genre de couple. Autour de Didi d'être décontenancée, elle retourna la phrase dans sa tête sans arriver à débrouiller la chose. De quel genre est ce couple? Le genre respectueux. Sandra était très jeune quand nous nous sommes mariés. Si elle avait besoin de faire encore quelques expériences, je pourrais lui en laisser la liberté. Très compréhensif de votre part. Il ne répondit pas. Alors Didi comprit. Vous lui avez fait signer un contrat de mariage? Une clause stipulant que si elle vous trompait, vous ne lui devriez rien en cas de divorce ?
Il n'y a pas de contrat. Vraiment. Pas de contrat. Avec tout cet argent sur vos comptes.
C'est l'argent d'un héritage. Je ne m'attendais pas du tout à le recevoir. Donc ça ne pourrait pas me faire grand-chose de le perdre.
Oh, je vous en prie. 2 millions de dollars. 4. Vous n'êtes pas bien renseigné.
4 millions de dollars. Et pourtant, nous vivons avec 2 500 dollars par mois.
Commandant, vous n'avez toujours pas posé la bonne question.
À savoir ? Même si j'avais une raison de faire du mal à ma femme, pourquoi m'en serais-je pris à Mr. Smith ?
Pardon ? Vous avez déjà entendu parler de Ted Bundy ? Il a assassiné et mutilé plus de 30 femmes et pourtant, il refusait de voler une voiture qui ne serait pas assurée parce qu'il trouvait ça cruel. Bon, un mari qui tue sa femme plutôt que d'accepter le divorce est clairement un psychopathe. Ses besoins passent en premier. Sa femme n'est guère plus qu'un objet animé. Elle est un obstacle à la satisfaction de ses besoins. Il s'estime en droit de se débarrasser d'elle.
Didi ne dit rien. Elle s'est forcée de déterminer si elle venait d'entendre un aveu.
Mais le chat, commandant, Mr. Smith, même si j'avais chosifié ma femme au point de décider que je serais mieux sans elle, que m'avais-je fait le chat ? Je pourrais peut-être justifier le fait d'enlever sa mère à ma fille, mais m'en prendre à son animal, ce serait de la cruauté pure et simple.
Alors qu'est devenue votre femme, Monsieur Jones ?
J'en ai aucune idée.
Lui est-il déjà arrivé de disparaître ?
Jamais.
Lui est-il déjà arrivé de ne pas se présenter quelque part sans se donner la peine de prévenir ?
Sandra est très consciencieuse. Demandez à son collège. Elle dit ce qu'elle fait, elle fait ce qu'elle dit.
Lui est-il arrivé par le passé d'aller dans des bars, de boire beaucoup, de prendre de la drogue ?
Comme vous l'avez dit vous-même, elle est encore très jeune.
Non, nous ne buvons pas. Nous ne nous droguons pas.
Est-ce qu'elle est somnambule ? Est-ce qu'elle prend des médicaments ?
Non.
Est-ce qu'elle fréquente des gens à l'extérieur ?
Nous menons une vie très tranquille, commandant. Notre priorité est notre fille.
En d'autres termes, vous êtes des gens comme tout le monde, très réglés.
Réglés comme une horloge.
Qui vivait comme par hasard dans une maison avec des fenêtres blindées et des portes métalliques ?
Nous habitons en ville. On ne plaisante pas avec la sécurité.
J'ignorais que South Boston était un quartier aussi difficile. J'ignorais que la police regardait d'un mauvais œil ceux qui ferment leur maison.
Didi décida de déclarer le match nul.
Elle fit une nouvelle pause pour essayer de prendre ses marques dans une conversation qui aurait dû se tenir en présence l'un de l'autre et non par téléphone.
Quand vous êtes rentré chez vous, Monsieur Jones, est-ce que les portes étaient fermées à clé ?
Oui.
Est-ce que quoi que ce soit d'inhabituel vous a frappé ? Dans la cuisine, le couloir, l'entrée ? Quoi que ce soit quand vous êtes entré dans la maison.
Je n'ai rien remarqué du tout.
Quand vous vous êtes aperçu que votre femme n'était pas chez vous, Monsieur Jones, qu'avez-vous fait ?
J'ai appelé son portable, qui s'est révélé être dans son sac sur le bar de la cuisine.
Et ensuite, qu'avez-vous fait ?
Je suis sortie, histoire de voir si elle était dans le jardin pour une raison quelconque, peut-être pour regarder les étoiles, je ne sais pas. Elle n'était pas à l'intérieur, alors j'ai vérifié dehors.
Et ensuite ?
Ensuite, j'ai vérifié dans sa voiture.
Et ensuite ?
Ensuite quoi ?
Ce que vous décrivez prend environ 3 minutes. D'après les premiers intervenants, vous n'avez appelé les secours que 3 heures plus tard.
Qui avez-vous appelé, Monsieur Jones ? Qu'avez-vous fait ?
Je n'ai appelé personne.
Je n'ai rien fait.
Pendant 3 heures.
J'ai attendu, commandant. Je me suis assis dans le canapé et j'ai attendu que ma vie reprenne son cours normal. Et ensuite, comme ça ne se produisait pas miraculeusement, j'ai appelé la police.
Je ne vous crois pas, dit Didi tout net.
Je sais, mais c'est peut-être aussi la preuve de mon innocence. Est-ce qu'un coupable ne s'inventerait pas un meilleur alibi ?
Elle poussa un profond soupir.
Alors que croyez-vous qu'il est arrivé à votre femme, Monsieur Jones ?
Elle l'entendit alors prendre un instant pour réfléchir lui aussi. Pour répondre finalement,
eh bien, il y a un délinquant sexuel fiché dans notre rue.